Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous en ce jour de sabbat. Mes frères, j'aimerais commencer par vous présenter deux scénarios simples. Il suffit de visualiser ces deux scénarios très simples pour que vous compreniez dès le départ la direction que nous allons prendre. Imaginez un pygargue à tête blanche planant haut dans le ciel. Pensez aux sentiments que cela suscite. Et qu'en est-il d'un pygargue à tête blanche enfermé dans une cage? Quelque chose qui contraste complètement avec celui qui vole librement, planant haut dans le ciel. Quels sentiments ces deux scénarios suscitent-ils? Des sentiments complètement différents, opposés, j'en suis sûr. Quand j'y ai réfléchi, mes amis, l'aigle qui plane éveille en moi un sentiment de pure liberté. Pensez au symbole de l'aigle à tête blanche ici, aux États-Unis, qui représente la liberté. Pas la liberté pour l'oiseau en soi, mais plutôt la liberté pour les gens. Mais cet oiseau représente la liberté, peut-être la joie. Quand on voit un aigle voler, on ressent de la joie en soi. Et l'inspiration? Je pense à moi-même, et mes frères, beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais vu d'aigle à tête blanche auparavant. Je pense aux aigles des Philippines. Deux magnifiques oiseaux. Je ne les ai pas vus, mais j'ai vu des photos d'eux et ce sont deux magnifiques oiseaux, grands, très grands, et on a envie d'aller les voir sur Internet. Mais je me souviens de l'année dernière, lorsque ma famille et moi avons voyagé en Afrique du Sud. Nous sommes allés au parc national Kruger, et il est intéressant de noter que c'est un parc relativement grand avec une grande biodiversité. Et il y a, si l'on consulte les ressources, 9 espèces différentes d'aigles. Et en 2 jours, nous en avons vu 5. J'ai donc ressenti ce sentiment lorsque je suis entré dans le parc et que j'ai commencé à voir ces oiseaux voler, libres. C'est ce sentiment que je partage avec vous en posant cette question. Maintenant, l'inverse. Qu'en est-il de ce même oiseau en cage? Quel sentiment éprouvez-vous en voyant cet oiseau libre désormais enfermé dans une cage? Cela suscite peut-être de la frustration. Je suis frustré de voir que cet oiseau devrait voler librement, mais qu'il est restreint. Il ne peut pas être et faire ce pourquoi il a été fait. Peut-être de la tristesse pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous pourraient ressentir de la tristesse. Ou même, certains d'entre vous pourraient ressentir non seulement de la frustration, mais aussi un peu de colère. Je suis sûr que cela vous traversera l'esprit. Qui a mis cet oiseau dans cette cage? Il devrait pouvoir voler librement. Maintenant, mes frères, à première vue, cela semble évident. Quand on regarde ces deux scénarios concernant un animal similaire, un oiseau, un pygargue à tête blanche, on peut dire que la liberté signifie l'absence de limite. Quand cet oiseau vole librement, on pourrait se dire, cela signifie qu'il n'y a pas de limite. L'aigle à tête blanche peut voler où bon lui semble. Si vous allez en Afrique du Sud, observez les schémas migratoires des aigles. Ils vont et viennent à leur guise. Je suis sûr que les aigles que vous connaissez dans vos régions à travers le monde, sur chaque continent et dans chaque pays, sont de magnifiques oiseaux, mais ils vont et viennent comme ils le souhaitent. Vous pourriez dire que la liberté signifie l'absence de limite. Quand vous regardez cet oiseau en cage, vous pourriez dire que les limites signifient une restriction. Mais est-ce vraiment vrai, mes frères? La liberté est-elle sans limite, et les limites signifient-elles une restriction totale? Rapprochons un peu cela de nous. Certes, nous ne parlons pas d'animaux, ni d'oiseaux. Mes frères, vous et moi avons traversé, il n'y a pas si longtemps, les jours des pains sans levain. Dieu a délivré Israël de l'Égypte, de l'esclavage physique. Ils se souviendront de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient, mais pour nous, Dieu nous a délivrés de l'esclavage spirituel du péché. C'est quelque chose qui est encore très présent dans nos esprits alors que nous nous approchons de la Pentecôte, en repensant à la façon dont Dieu nous a délivrés de l'esclavage spirituel. La question qui se pose donc pour nous, frères, est la suivante, quel genre de liberté Dieu nous a-t-il donné? Quand nous pensons à l'oiseau qui vole, s'agit-il d'une liberté sans limite? Est-ce là la liberté que Dieu a en tête? Frères et sœurs, quand nous parlons de limite, cela signifie-t-il une restriction totale? Qu'est-ce que Dieu a en tête? Comment Dieu conçoit-il la liberté? S'agit-il d'une liberté absolue comme celle de l'aigle, sans limite, ou est-ce quelque chose d'un peu différent? Passons au chapitre 1 de l'épître de Jacques. Juste un verset ici, tout au début, au chapitre 1 de Jacques, pour imprégner notre esprit de la pensée de Dieu, de ses pensées. Et nous n'avons pas besoin de creuser profondément pour le trouver. Nous pouvons trouver la pensée de Dieu sur ce sujet ici, au chapitre 1 de Jacques, verset 25. Je lis, en parlant de nous, frères, mais quiconque scrute la loi parfaite de la liberté et y persévère, n'étant pas un auditeur oublieux mais un pratiquant de l'œuvre, cet homme, cette femme, sera béni dans son action. Dans tout ce qu'il ou elle fait, il ou elle sera béni, eux, il ou elle sera heureux, ceux, il ou elle prospérera. Qui est-ce? Celui qui scrute la loi parfaite de la liberté. Dont quatre mots, dont trois, parfaite, loi et liberté. Que signifie-t-il? Quand on regarde le mot « loi », cela implique une structure, n'est-ce pas? Cela implique des limites et des frontières, et pourtant Dieu l'appelle la loi de la liberté. C'est une signification très intéressante alors que nous allons, une fois encore, poser la question « quelle liberté Dieu a-t-il en tête pour nous, frères et sœurs ? » Nous trouverons cette réponse dans la signification du mot « liberté ». Dieu n'a pas dit qu'il n'y avait pas de limite. Quand on pense à la loi, nous savons, vous et moi, que nous observons la loi, frères et sœurs. Ce verset dit que ceux qui demeurent dans la loi, nous savons que nous observons la loi de Dieu. Nous obéissons à Dieu. Ce message ne portera pas sur vous et moi, ni sur la manière dont nous obéissons à Dieu. Nous le faisons, nous nous efforçons de le faire chaque jour. Nous voulons le faire plus efficacement. Mais ici, je vous renvoie au lexique grec de Théier, aux définitions grecques de Théier pour le mot « liberté », et il le définit magnifiquement. Cela signifie la liberté. La vraie liberté, la véritable liberté, c'est de vivre comme nous le devons, et non comme bon nous semble. Frères et sœurs, Dieu avait en tête une manière dont vous et moi devrions vivre. Le monde et ceux qui s'y trouvent depuis le commencement ne savaient pas comment ils devaient vivre. Nous ne savons naturellement pas non plus comment nous devrions vivre. Mais nous voyons qu'il existe certaines limites. Aujourd'hui, examinons la parole de Dieu, tous ensemble, et comprenons pourquoi les limites ne sont pas des restrictions, mais qu'elles sont essentielles. Les limites sont essentielles, frères et sœurs. Lorsque vous sortirez de cette salle aujourd'hui, vous ne voudrez pas seulement aller servir Dieu plus efficacement, mais vous voudrez aussi avoir une plus grande appréciation des limites qu'il a établies au départ. Examinons donc le tout premier point. Voyons cela dans son ensemble. Les limites ne sont pas facultatives. Elles sont tissées dans tous les aspects de la vie. Elles sont nécessaires. Les limites font partie de la vie, mes frères et sœurs. Approfondissons un peu cela. Elles existent partout. Pensez aux limites visibles et invisibles. Quand je suis assis ici, ou que vous êtes assis dans le hall, et que je me tiens debout dans le hall, il y a des murs. Quand vous êtes chez vous, Les murs délimitent les pièces et les maisons. Ce sont des limites physiques. On peut les voir. Si, enfant, vous courez vite et que vous vous cognez contre un mur, vous verrez qu'il s'agit d'une limite que vous ne pouvez pas franchir. Les limites de votre terrain définissent la propriété. Qu'en est-il des quartiers, des comtés, des municipalités, des villes? Même les pays sont définis par des limites. Repensez à l'histoire, tout le monde. Quelle était l'une des principales raisons pour lesquelles l'Allemagne d'Adolf Hitler voulait entrer en guerre? Ils l'ont décrit comme un désir d'avoir plus de Lebensraum. Lebensraum, si on traduit cela en afrikaans, on dirait qu'il voulait plus de Lebensraum. Lebensraum, cela signifie qu'il n'acceptait pas les frontières du pays. Il voulait avoir plus d'espace vital. Il se sentait à l'étroit. Il se sentait confiné. Qu'en est-il des routes et des voies qui régissent la circulation? On peut circuler sur une route, et on sait qu'il y a des limites. Il y a des lignes. Il y a des panneaux de signalisation qui nous aident à rester dans les lignes, à respecter les limites. Imaginez les accidents qui se produiraient si l'on franchissait ces lignes. Cela arrive, mais mes frères, ces lignes sont là dans un but précis, elles marquent les limites. Même les océans ont des limites. Allons voir Job. Allons voir Job. Encore une fois, le point simple que nous soulignons est que les limites sont partout. Elles font partie de la vie. Job chapitre 38, et nous reprendrons au verset 8. Job chapitre 38, verset 8. Il est dit, Dieu s'adressant ici à Job, ou qui a fermé la mer avec des portes, nous fermons la salle pendant les cultes. Il y a des portes. Ici, Dieu demande à Job, qui a enfermé l'océan derrière des portes, qui peut confiner l'océan à ses limites, pour ainsi dire, quand il se déchaîne, quand il se met en colère et veut déborder de ses limites, Dieu dit, qui a mis un frein à l'océan, comme s'il sortait du sein maternel. Quand j'entends et que je lis cela, soudain, une image me vient à l'esprit. Le tout premier bébé que j'ai vu naître dans ce monde en tant qu'étudiant en médecine, ce petit être est sorti du sein maternel exactement comme Dieu l'a décrit. Habituellement, la naissance d'un bébé prend beaucoup de temps. Ce n'était pas le cas ici. La femme, si je me souviens bien, en était peut-être à son cinquième enfant, et cet enfant est tout simplement sorti du sein maternel. Il est sorti presque immédiatement, sans aucun problème. Pensez à l'océan que Dieu décrit, en nous mettant quelque chose à l'esprit. Quand j'ai fait du nuage son vêtement, et des ténèbres épaisses ses langes, pour l'océan, et que j'ai tracé pour lui la limite que j'avais fixée, et posé des barrières et des portes, et dit, jusqu'ici tu viendras, mais pas plus loin. Océan, sur mon ordre, je te fixe une limite. Tu ne peux pas aller plus loin. Ici et ici s'arrêteront tes vagues orgueilleuses. Dieu s'adresse à Job, et mes frères, nous réfléchissons aux limites, et nous pouvons nous amuser un peu avec cela. Imaginez que vous partiez en vacances à la plage. Vous planifiez ces vacances depuis longtemps avec votre famille. Et le premier jour, vous descendez avec vos enfants, tout est prêt. Vous avez votre tuba à la main, vos lunettes de plongée, vos palmes, de la crème solaire aussi épaisse que possible. En Afrique du Sud, on plaisantait toujours en disant que quand on vient de l'intérieur des terres et qu'on va à l'océan, on reconnaît tout de suite ceux qui viennent de l'intérieur. Ils sont généralement très pâles et ont mis beaucoup de crème solaire. Pâles, car ils n'ont pas vu le soleil depuis un moment, et beaucoup de crème solaire parce qu'ils ont peur des coups de soleil. Vous êtes donc prêts. Vous arrivez à la plage et vous regardez autour de vous. Vous marchez quelques mètres sur la plage, et vos enfants vous demandent, Papa, où est l'eau? Vous allez demander au maître nageur, Non, monsieur, l'océan est 1 kilomètre plus loin aujourd'hui. La marée est 1 kilomètre plus loin. D'accord. Le lendemain, vous faites exactement la même chose. En descendant dans le hall de votre hôtel, vous constatez que celui-ci est sous 2 mètres d'eau. Imaginez si l'océan n'avait pas de limite. Nous ne pourrions pas passer un moment agréable à la plage, mais Dieu a fixé cette limite, mes frères, une limite physique dans un but précis. Nous pouvons nous amuser un peu. Mais qu'en est-il de vous et moi personnellement? Il en va de même pour nous personnellement. Matthieu dit que nous ne pouvons pas du tout augmenter notre taille. Il y a un moment où l'on grandit, certains facteurs de la vie, l'alimentation, la maladie et ce genre de choses. Ces éléments peuvent déterminer votre taille, mais ensuite, c'est une limite physique que vous avez atteinte. Certaines personnes veulent être plus grandes et subissent des opérations pour y parvenir, mais en fin de compte, c'est Dieu qui a fixé cette limite. Nos corps fonctionnent dans certaines limites. Pensez à votre rythme cardiaque, à votre taux de glucose, à vos hormones, voire à votre force. Quand on est jeune, on est fort, mais il y a des limites à ce qu'on peut soulever. En vieillissant, on en prend pleinement conscience. Notre force n'est plus la même. On n'est plus aussi fort qu'on le pensait ou qu'on l'était peut-être il y a quelques décennies. Et qu'en est-il de votre énergie? Toutes ces choses sont des limites. Même l'espace personnel diffère d'une personne à l'autre. Certaines personnes vous laisseront vous tenir près d'elles, à 30 ou 60 cm de distance lorsque vous discutez. Dans certaines cultures, les gens se tiennent presque face à face, à quelques centimètres l'un de l'autre, et c'est normal, mais nous avons tous cet espace personnel. Pour certains, il est plus grand, pour d'autres plus petit, mais c'est une limite personnelle, une frontière. Pensez aux relations, tout le monde réfléchit aux limites dans les relations. Vous faites une blague à un ami, mais à un moment donné, il peut dire « Bon, cela suffit ». Vous continuez à essayer de faire cette blague, mais peut-être que cela a marché hier, mais aujourd'hui, quelque chose a pu se passer dans sa journée, où il ne se sent pas bien. Il est peut-être préoccupé par quelque chose, inquiet, ou simplement irrité, frustré. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais il vous dira, il y a une limite. Merci. Vous avez atteint cette limite. Vous savez qu'avec certaines personnes, on atteint rapidement cette limite, tandis qu'avec d'autres, cela prend un peu plus de temps. Avec certaines personnes, on peut plaisanter un peu plus. D'autres ne vous laisseront peut-être même pas plaisanter avec elles, donc tout le monde est différent. Les relations sont différentes, mais il y a des limites, et vous savez quand vous avez franchi cette limite. Certaines personnes aiment tester ces limites, mais si vous les franchissez, cela peut entraîner un malaise ou un conflit, consciemment ou inconsciemment. Mes frères et sœurs, nous traversons toutes ces différentes limites, ce qui montre une fois de plus qu'elles font partie de la vie. Les limites définissent ce qui est approprié, ce qui est sûr et ce qui est respectueux. J'aimerais, alors que nous passons au point suivant, partager avec vous un message de quelqu'un qui nous a écrit, quelqu'un qui souhaitait assister à nos cultes, et j'ai trouvé que cette courte phrase, la raison pour laquelle cette personne cherchait l'Église de Dieu, correspondait parfaitement à ce message. Elle a écrit, « J'ai vraiment besoin de trouver Dieu. Il y a un vide dans ma vie. Que mettriez-vous dans ce vide? J'ai vraiment besoin de trouver Dieu dans ma vie. » Quelle est cette chose que cette personne a réalisée dans sa vie pour se dire, cette limite ou ce qui manque dans ma vie, Je ne peux le trouver qu'au sein de l'Église de Dieu. J'ai vraiment besoin de Dieu dans ma vie. Je n'ai aucune structure dans ma vie. Il est très intéressant de voir qu'une personne puisse regarder sa vie, peut-être un peu chaotique, un peu sans direction, mais qu'elle réalise qu'elle a besoin de Dieu dans sa vie. Cette affirmation, frères et sœurs, révèle quelque chose de très, très important. Sans limite, la vie peut sembler incertaine et instable. Nous pourrions nous demander, est-ce là ce que Dieu avait prévu? Est-ce là ce que Dieu voulait pour les êtres humains, qu'il n'ait aucune structure dans leur vie? Et cela nous amène au deuxième point. De manière naturelle, mes frères, les limites apportent de l'ordre et une structure à votre vie et à la mienne. Elles apportent de la clarté. Elles apportent une direction, et elles apportent de la stabilité. Rappelez-vous, nous parlons des limites de Dieu. Vous et moi obéissons déjà à Dieu, mais nous cherchons à comprendre pourquoi. Pourquoi voulons-nous apprécier ce que Dieu nous a donné, ses limites? Les apprécier davantage, en comprenant la signification de ces limites et ce que Dieu a prévu pour nous, comment vivre, non pas comme bon nous semble, mais selon la manière dont il a prévu que nous vivions. Et ce n'est certainement pas, mes frères, il n'a pas voulu que nous vivions sans structure, sans ordre. Et nous le comprenons tous. Je ne vous apporte rien aujourd'hui que vous n'ayez déjà entendu auparavant. Mais nous voulons replacer cela dans son contexte et, encore une fois, apprécier un peu plus ce que Dieu a fait, mes frères, lorsqu'il nous a donné la liberté. Une liberté avec des limites, passant. Examinons une définition simple des limites. J'en ai brièvement parlé dans le point précédent, mais les limites sont des frontières, des lignes, des principes qui définissent ce qui est acceptable, sûr et approprié dans les relations, dans un environnement et dans tout système. C'est une définition très large. Simplifions les choses. Les limites nous aident à savoir ce qui doit se trouver à l'intérieur et ce qui doit rester à l'extérieur de ces lignes de démarcation, qu'il s'agisse d'une relation, d'un environnement ou d'un système, ce qui est à l'intérieur et ce qui doit rester à l'extérieur de ces limites. Imaginez une ville où tous les feux de signalisation cesseraient soudainement de fonctionner. Quel serait le résultat? Chaque jour, tout le monde se rendrait au travail et pourrait régler sa montre, chronométrer son trajet. Je sais que ce feu passera au vert quand j'y arriverai. Si je pars 8 minutes après 7 heures, le feu est vert. Si je pars 1 minute plus tard, il est rouge. Mais que se passerait-il si tous ces feux s'éteignaient soudainement? Il en résulterait de la confusion, de la frustration et, à terme, le chaos. Il n'y aurait plus d'ordre, plus de structure. Maintenant, en donnant cet exemple, j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas le meilleur exemple qui soit, en parlant de feux de signalisation. Pourquoi dis-je cela? J'ai réalisé que beaucoup de frères et sœurs vivent dans des régions où les feux de signalisation ne fonctionnent pas du tout au quotidien. Je sais comment vous appelez cela. Vous appelez cela le chaos organisé. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai moi-même vécu ce chaos organisé. Les êtres humains sont débrouillards. Lorsque le chaos s'installe, nous trouvons des moyens de le contourner. Mais ce n'est qu'un exemple, mes frères et sœurs, tiré de la vie quotidienne, un simple exemple de limite. Maintenant, considérez l'instruction de Dieu depuis le commencement. Revenons à la parole de Dieu, pour saisir sa pensée depuis le commencement alors que nous réfléchissons aux limites, afin d'apporter clarté, ordre et structure dans nos vies. Genèse, chapitre 2, et nous reprenons au verset 16, Dieu donne un ordre à l'homme, Adam et Ève, après avoir recréé la surface de la terre, remis en place les plantes et les animaux, placer Adam et Ève dans le jardin, et il dit, et le Seigneur donna cet ordre à l'homme, tu peux manger librement de tous les arbres du jardin. Avez-vous déjà remarqué cela, frères et sœurs, tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Or, notre esprit se tourne immédiatement vers ce que Dieu a interdit, la limite qu'il a fixée, cet arbre unique. Mais au verset 16, il est en fait question de tous les arbres. Combien y avait-il d'arbres dans le jardin? Nous ne le savons pas. Quand Adam a regardé autour de lui, quand Dieu a donné ce commandement, a-t-il vu 10 arbres? En a-t-il vu 100? Dieu lui a-t-il permis d'en nommer 1000, 10 000? Combien y avait-il d'arbres dans le jardin dont il pouvait manger les fruits? Combien d'arbres fruitiers? Nous ne le savons pas, mais au moins nous savons qu'il y en avait plus de 2. L'arbre de vie, ils avaient le droit de manger de l'arbre de vie, mais c'était la seule restriction que Dieu leur avait imposée, frères. C'est significatif. Cet arbre-là. Les limites de Dieu ne sont pas restrictives. Elles ont un but. Elles sont sélectives. Elles ont un but précis. David l'avait compris. Passons au psaume 119. Il est très intéressant de voir comment David écrit dans ce psaume qui parle de la loi de Dieu, et il avait certainement à l'esprit la loi de liberté de Dieu. Mes frères, je suis sûr que lorsque nous lirons ce verset, nous commencerons au verset 96. Il a fallu toute une vie à David pour comprendre ce qu'il nous a transmis. Un trésor que vous et moi devons comprendre, frères, auquel nous devons nous accrocher, sur lequel nous devons réfléchir, sur lequel nous devons méditer. Le verset 96, où il voit un aigle voler sans limite, et je suis sûr qu'il a vu dans sa vie des gens et des animaux en servitude, et qu'il s'est peut-être posé la même question que vous et moi nous posons au début. Mais le verset 96 dit, « J'ai vu la fin de toute perfection. J'ai vu la limite. Je suis allé jusqu'à la limite de la perfection. Cette perfection désigne l'accomplissement humain. J'ai vu tout ce que les humains peuvent faire. La fin de toute perfection. Mais, mes frères, écoutez ce qu'il a dit, la conclusion à laquelle il est parvenu, mais ton commandement, ta loi, est extrêmement vaste. » David a compris que la loi de Dieu, frères, celle de la liberté, ne le restreignait pas. La fin de la perfection, comme nous l'avons dit, la limite de la perfection. Mais extrêmement vaste signifie être immense, être large, être spacieux, être expansif. Est-ce ainsi que vous concevez les limites de Dieu, frères? Vous et moi, j'en suis sûr, mais nous voulons aujourd'hui élargir notre esprit à ce sujet. Sans limite, comme une plaine ouverte. Sans fin. Un horizon sans fin, et cela signifie aussi la liberté. Lorsque nous obéissons à Dieu, et c'est ce que nous faisons, mes frères, nous sommes véritablement libres. Lorsque nous sommes à l'intérieur des limites de Dieu, c'est là que nous sommes véritablement libres. En d'autres termes, à l'intérieur des limites de Dieu, mes frères, il y a un vaste espace, de la place pour grandir, de la place pour s'épanouir et vivre pleinement, vivre comme Dieu l'a voulu. C'est le juste milieu entre la liberté sans limite et les limites qui nous restreignent. C'est ce juste milieu. C'est ce que Dieu en pense, mes frères. Pensez au sabbat. Vous et moi, nous observons tous le sabbat de Dieu. Nous savons comment faire. Mais certains, lorsqu'ils découvrent le sabbat, le perçoivent parfois comme une contrainte. Notre esprit, tout comme celui d'Adam et Ève, s'est immédiatement tourné vers les limites lorsque Satan les a tentés. Notre esprit, en tant qu'êtres humains, peut se focaliser sur les restrictions du sabbat. Je ne peux plus pratiquer les sports que je faisais auparavant. Mon sport préféré n'est pratiqué que le jour du sabbat. Je ne peux pas aller au centre commercial comme je le faisais habituellement par le passé, ni passer du temps avec mes amis et ma famille comme je le faisais auparavant. Cela semble restrictif. Mais voyez les choses ainsi, mes frères et sœurs. Pensez à la structure et à l'ordre que seul le sabbat nous apporte, à vous et à moi. Pas seulement pour ce jour-là, mais en réalité pour toute notre semaine. Ma femme et moi, avant même que je ne réfléchisse à ce message et que je le prépare, nous y avons pensé en détail. Nous nous sommes racontés comment, avant de connaître la vérité de Dieu, nous vivions nos week-ends. Pensez au dimanche, vous arriviez dans la semaine sans être préparé, et finalement, le lundi vous semblait un lundi morose, ou comme on dit, le retour à la réalité. Vous aviez l'impression que votre routine avait été bouleversée. Pour une raison ou une autre, vous ne saviez pas ce qui se passait. Mais une fois que vous commencez à obéir au jour du sabbat de Dieu, non seulement le sabbat commence à s'organiser, mais chaque autre jour, Dieu nous accorde du temps le dimanche pour nous préparer à la semaine de travail. On accomplit des choses. On se prépare, et on est beaucoup plus en paix, et les choses se font correctement, dans l'ordre, pendant la semaine. Pas toutes les semaines, mais à mesure qu'on observe la loi de Dieu et qu'on respecte le sabbat, on voit que ce jour-là fait cela pour nous. Il met de l'ordre dans notre gestion du temps. Qu'en est-il de vos finances? Je suis sûr qu'avant de suivre la voie de Dieu, pour beaucoup d'entre vous, vos finances étaient une source d'inquiétude, une préoccupation constante. Or, lorsque nous commençons à obéir à Dieu, il y a une certaine limite. Lorsque nous payons la dîme et que nous faisons des offrandes, on pourrait dire que 10 moins 1 font 9. Cela signifie que je suis limité. Je ne peux pas faire plus avec mon argent. Mais à mesure que vous obéissez à Dieu pendant une longue période, vous commencez à réaliser, non, mon argent peut aller beaucoup plus loin. Si j'obéis aux lois financières de Dieu, mon argent peut aller beaucoup plus loin. Vous avez plus de paix. Vous pouvez faire plus avec moins que ce que vous avez. Dieu vous donne des bénédictions. Frères et sœurs, qu'en est-il de toutes les autres bénédictions? Les opportunités, les amitiés, la paix et la joie que vous et moi avons en vivant selon la voie de Dieu, dans ses limites. Ce ne sont là que quelques exemples, mes amis. Dans les limites de Dieu, la vie devient plus claire, plus stable, et plus significative. Nous vivons comme nous le devrions, comme Dieu l'a voulu. Maintenant, j'aimerais vous lancer un défi alors que nous réfléchissons au troisième point ici, mes amis. Y a-t-il une limite que Dieu a établie et à laquelle vous pouvez penser qu'il ne soit pas lié, d'une manière ou d'une autre, à l'intention de nous faire du bien? Y a-t-il une limite de Dieu, une de ses lois, un de ses commandements qui ait été établi et qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, lié à notre bien, qui nous aide, qui nous profite? Allons au chapitre 1 du livre de Job. Le chapitre 1 de Job. Et nous reprendrons au verset 10. Le troisième point est, mes frères, tout simplement, que les limites nous protègent. Ce sont des garde-fous. Elles sont là pour nous protéger. Voyons voir, lorsque Satan s'est présenté devant Dieu au ciel, il a parlé de Job. Nous pouvons reprendre au verset 9. Alors Satan répondit au Seigneur et dit, « Job craint-il Dieu pour rien? N'as-tu pas dressé une haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qu'il possède de tous côtés? N'as-tu pas béni le travail de ses mains, et ses biens ne se sont-ils pas multipliés sur la terre? N'as-tu pas dressé une haie autour de lui, Dieu? Mes frères, les limites de Dieu y sont décrites comme une haie. Il érige une haie, pas une cage. Il a érigé une haie. Quand on pense à une haie, quand on va sur Internet et qu'on regarde des haies, ce sont généralement des limites magnifiquement entretenues. Une haie. Ce n'est pas une cage. Passons au psaume 34. Dieu ne veut pas nous restreindre. Il veut nous protéger. Il veut vous protéger, vous et moi. Ses limites sont là pour nous protéger. Psaume 34, verset 7. Pensez à vous et à moi, frères et sœurs. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Vous et moi avons besoin de protection. Nous pourrions approfondir ce sujet et en parler longuement, frères et sœurs. Mais Dieu campe autour de nous. Quand on parle de camper, qu'est-ce que cela signifie? Habituellement, c'est une armée qui campe autour de quelque chose pour le protéger. Certes, vous et moi avons besoin de protection. Nous ne pouvons pas toujours voir la protection invisible dont nous bénéficions. Mais le fait est, frères, que si vous et moi obéissons à Dieu, voyez-vous c'était ce campement autour de vous chaque jour, par lequel Dieu nous protège. Certes, nous voulons rester à l'intérieur de ses limites. Certes, nous pouvons voir le but de ses limites, si nous sommes des brebis, nous sommes dans son enclos, pour ainsi dire. Nous voulons y rester et être protégés. Maintenant, considérez les paroles du Christ dans Matthieu. Allons au chapitre 7 de Matthieu. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Je suis sûr qu'en parlant de limites, ces deux versets vous sont venus à l'esprit à un moment ou à un autre, et je voulais les lire. Le verset 13, Matthieu 7, dit « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Étroite signifie étroite, serré ou confiné. Étroite signifie difficile, exigeant de la discipline et restreinte. Nous avons déjà parlé un peu des routes en général, mais aux États-Unis, il y a environ 4,2 millions de miles de routes, et vous et moi, frères, sommes libres de voyager. Lorsque vous allez à la fête, vous pouvez louer une voiture et vous rendre où bon vous semble. Vous avez la liberté d'aller où bon vous semble, mais il y a des limites sur la route, n'est-ce pas? Ces haies, pour ainsi dire, ces dispositifs de sécurité, ces glissières de sécurité, nous empêchent de finir dans un fossé avec notre voiture, ou même de tomber d'une falaise. Pensez à ces routes de montagne, il y a des glissières de sécurité pour nous protéger. De la même manière, frères et sœurs, les voies de Dieu sont là, le mode de vie de Dieu est là pour nous protéger, pour nous préserver. C'est presque comme les roues d'entraînement d'un vélo. Je me souviens que lorsque ma fille était petite, il est arrivé un moment où ses petites roues d'entraînement ne suffisaient plus. Elle l'a freiné. Donc, encore une fois, ces roues d'entraînement sont un exemple jusqu'à un certain point. Mais elles vous maintiennent en équilibre. Elles vous gardent en sécurité. Passons au chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Juste un verset ici, au chapitre 3 de l'Épître aux Galates, et nous allons lire le verset 24. Nous réfléchissons toujours à la protection de Dieu, à ses limites, à ses frontières qui nous protègent. Verset 24. La loi a donc été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Si vous lisez un peu plus haut dans les versets, il est question des lois relatives aux sacrifices qui ont été ajoutés à cause de la transgression, à cause du péché. Mais en fin de compte, Ces lois relatives au sacrifice étaient un guide. Un maître d'école, en fin de compte, guidant la nation d'Israël vers Christ. De la même manière, frères, nous avons besoin d'être guidés. Alors que nous marchons, souvenez-vous que nous avons parlé de sortir des jours des pains sans levain et d'avancer vers la Pentecôte. Nous marchons et nous avons besoin d'être guidés vers la perfection, vers la vie éternelle. C'est la direction dans laquelle nous marchons. La loi des sacrifices a été ajoutée pour guider la nation. Frères et sœurs, les limites de Dieu sont là pour vous guider, vous et moi, pour nous protéger. Nous ne voyons pas toujours le mal. Nous n'avons pas une vision parfaite, une vision spirituelle. Nous avons besoin d'une direction pour finalement arriver là où Dieu veut que nous soyons. Cette direction dont vous et moi avons besoin au quotidien. Revenons à notre point de départ. Comparons l'esclavage à la liberté. Allons dans Jude. Jude ne comporte qu'un seul chapitre, nous allons donc lire le verset 4. Comparons cet oiseau libre à celui qui est en captivité. Comparons la liberté à l'esclavage, verset 4 de Jude. Il est dit, car il s'est glissé parmi vous, à votre insu, des hommes qui, depuis longtemps, ont été destinés à cette condamnation, des hommes impies, qui transforment la grâce de Dieu, la manière dont Dieu voulait que nous vivions, en débauche. Et que signifie la débauche? Nous pouvons simplement continuer à lire, et il est dit, et qui renie le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. La débauche signifie le libre arbitre de péché. En d'autres termes, ils utilisent la liberté qui leur a été donnée comme excuse pour pécher. La liberté qui leur a été donnée comme excuse pour pécher. Et à quoi cela mène-t-il, frères? 2 Pierre 2, verset 19 de Pierre 2, verset 19. Alors qu'ils leur promettent la liberté, la volonté promet aux gens la liberté, eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Car celui qui est vaincu par quelque chose est asservi par cette même chose. En fin de compte, frères, voici la vérité. La liberté sans limite n'est pas du tout de la liberté. Elle ramène à l'esclavage. Alors, où cela nous mène-t-il, vous et moi? Encore une fois, nous avons trouvé ce juste milieu, frères. La loi de la liberté de Dieu, les limites de Dieu, la liberté de Dieu avec des limites. Dieu ne nous a pas seulement libérés du péché. Il nous a montré comment vivre véritablement. Les limites, frères, font partie de la vie. Elles apportent ordre et clarté. Elles apportent protection et elles nous préserveront. La prochaine fois que nous verrons une limite dans la parole de Dieu, nous ne devrions pas nous demander « De quoi cette limite m'empêche-t-elle ?» Nous devrions plutôt nous demander « De quoi cela me protège-t-il ?» Et vers quoi cela me conduit-il? Car, frères et sœurs, la véritable liberté ne se trouve pas dans le fait de faire ce que nous voulons, mais dans le fait de vivre comme Dieu l'a prévu.